par John Lydon. Merci d'avoir suivi. Restez à l'écoute.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous dans l'Amérique et vous. Ce soir nous parlons du passé esclavagiste aux États-Unis. Eric Manilakiza avec vous, Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Une commission du Congrès américain a entamé mercredi soir un débat sur le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage aux États-Unis. Ce projet de loi vise à créer une commission d'experts chargée de faire des propositions sur l'indemnisation par le gouvernement des descendants des quelques 4 millions d'Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865, date de l'abolition de l'esclavage. Il s'attaque à l'injustice, la cruauté, la brutalité et l'inhumanité fondamentale de l'esclavage et aux disparités dont souffre encore aujourd'hui la minorité noire américaine. Une telle loi est-elle nécessaire? Peut-elle contribuer à éradiquer les discriminations raciales aux États-Unis? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. L'Amérique et vous accueillent ce soir le professeur Mohamed Mbodj. Vous êtes historien, bonsoir.
Bonsoir.
En France, Athanase Karayenga, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Je précise que vous êtes consultant en communication et dans ce cadre, vous avez été sollicité par le Bureau international du travail afin d'effectuer des missions de formation d'un groupe de journalistes au Niger et en Mauritanie pour les spécialiser dans l'investigation sur les sujets relatifs à l'esclavage. Merci d'être avec nous.
Merci.
Notre troisième invité est René Lec, analyste politique. Il vit dans les environs de Washington, précisément dans le Maryland. Bonsoir et bienvenue René.
Bonsoir Eric.
Professeur Mbodj, je vais commencer par vous. Une première version de cette législation avait été rédigée il y a près de 30 ans. L'initiative est redevenue centrale depuis que la mort de plusieurs Afro-Américains victimes de violences policières ont poussé des réflexions sur le passé esclavagiste et les multiples discriminations subies par la minorité noire qui représente près de 13% de la population. D'abord, votre commentaire et que voudriez-vous voir dans ce projet de loi, professeur?
D'abord, c'est une réparation dans ce qu'on appelle le processus, le principe même, parce que pour nous autres historiens, il y a toujours eu une sorte d'interrogation majeure. Lorsque l'esclavage a été terminé dans la majeure partie du monde, il y a eu des réparations, mais ces réparations sont allées aux propriétaires d'esclaves. C'est ce qui s'est passé en France, en Grande-Bretagne, au Brésil, etc. Donc l'Amérique fait exception qu'elle n'a jamais examiné ce problème et avait décidé de renvoyer dos à dos les propriétaires d'esclaves comme les esclaves. Et donc, sur le plan historique, c'était déjà quelque chose de différent. Deuxièmement, maintenant, dans quelle mesure cette réparation est unanime chez les Noirs reste à prouver. Il y a une forte minorité qui résiste, en quelque sorte, pour penser qu'en réalité, c'est une autre racialisation de leur situation aux États-Unis, et donc qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone qui bénéficieraient des mandes de l'État. Alors que fondamentalement, il y a d'autres moyens de réparer plutôt que simplement de le faire de façon pécuniaire. Et la troisième chose, évidemment, c'est que maintenant, c'est un peu une période où les différences raciales sur le plan économique, social, politique et autres sont tellement flagrantes qu'il faut faire quelque chose. Et que ce projet de loi qui va peut-être déboucher sur une loi, encore que la composition du Sénat laisse à réfléchir, est une bonne mesure d'une certaine façon pour effacer tout cela, donc depuis l'émancipation des années 1860, mais aussi tout ce qui s'est produit par la suite et qui a marginalisé les Africains-Américains sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Et donc, en dernier lieu, la version redlining qui les a relégués dans des zones défavorables dans les villes. Si ce projet de loi parvient à adresser tout cela, il y a une légitimité très claire et très nette. Maintenant, il faudra voir qui sera preneur.
Ornelec, je voudrais vous entendre sur la même question.
Oui, écoutez, Eric, moi je crois que c'est une bonne chose. Effectivement, la première fois que cette loi a été proposée au Congrès, c'était en 1989, donc il y a 31 ans, par John Conyers, qui était un démocrate congressman du Michigan. Et aujourd'hui, c'est Sheila Jackson Lee, du démocrate du Texas, qui reprend le flambeau. Pour ma part, je crois que c'est une question centrale. Je crois que l'un des gros drames, l'une des grandes tragédies de l'Amérique, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation entre différents groupes, et notamment entre deux groupes en particulier, je pourrais même dire trois, les deux principaux, les Noirs et les Blancs. Le troisième aurait été éventuellement les Indian Americans, les Indiens d'Amérique, les Native Americans. Et tant que cette question n'est pas clarifiée, comme on disait en Afrique du Sud, et ça a été repris dans plusieurs endroits de la planète, il est nécessaire d'avoir la vérité d'abord pour pouvoir se réconcilier. Donc, une approche un peu « truth and reconciliation ». Et je crois que l'Amérique ne pourra jamais panser ses plaies si elle n'accepte pas de faire face à son passé. Mais plus important que faire face à son passé, c'est les implications du passé sur le présent. Je veux dire, si vous prenez simplement sur la question, je rappelle tout le temps que l'Amérique, les huit pays les plus puissants militairement au monde, si vous regroupez derrière les États-Unis, si vous les regroupez tous, la puissance de feu et la puissance militaire de l'Amérique est supérieure à ces pays. La dominance, la domination de l'Amérique, le pouvoir que l'Amérique a au plan militaire, au plan économique, à l'échelle planétaire, est dû pour l'essentiel, absolument, essentiellement dû à l'esclavage. Le fait de pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre gratuite, d'une main-d'œuvre que l'on taille à merci, à qui on fait faire tout ce que l'on veut et tout ce que l'on souhaite, ça donne un avantage comparatif économique absolument remarquable. Si on ne reconnaît pas cela, si on ne reconnaît pas que l'Amérique aujourd'hui est l'Amérique du fait justement de son élément fondateur qui est l'esclavage, il est difficile de pouvoir avancer dans ce débat. Donc il y a toutes ces questions-là, à mon avis, qu'il faudrait aborder. Je sais que c'est prévu dans le projet de loi, réfléchir à l'impact que ça a aujourd'hui et voir s'il est possible de le quantifier. Je sais que le professeur William Darty de Duke University Public Policy, qui est un professeur qui travaille dessus depuis plus de 30 ans, il évalue à peu près, si on devait se référer à des questions financières, à 10 000 millions de dollars. Donc 10 à 12 trillions de dollars. Bon, à mon avis, c'est certainement bien plus que ça. Mais au-delà de la question financière, l'impact est autrement plus important sur les questions institutionnelles, la santé, l'éducation, etc.
Athanase, ce sont des injustices historiques que nous nous accordons toutes et tous aujourd'hui à condamner moralement. Est-ce que vous pensez que la condamnation morale peut s'assortir à travers cette réponse, à travers donc cette législation?
Je pense bien, je l'espère en tout cas, mais c'est pas la première fois que des sociétés, des pays, des nations essaient de réparer des injustices ou des souffrances ou des victimes de guerre ont été prises en considération, ne serait-ce que dans la dernière guerre mondiale qui a commencé entre l'Allemagne et la France. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déportations de Français vers l'Allemagne. Eh bien, ces déportés ont été indemnisés. C'est pas la première fois qu'on réfléchit à l'indemnisation des souffrances que des victimes ont subi. On connaît aussi l'approche rwandaise, par exemple, où les enfants issus des familles qui ont été décimées pendant le génocide des Tutsis reçoivent une réparation, une forme de réparation, c'est pas vraiment la réparation, un soutien de l'État pour faire des études supérieures. Je crois que c'est tout à fait normal que les pays, l'État, réfléchissent à la réparation, mais c'est une réparation, comme le disait le professeur Bodge, qui doit être d'abord morale, reconnaître d'abord la gravité du traitement de l'esclavage, mais aussi les souffrances, les traumatismes, les familles séparées, les familles brisées. Il faut reconnaître d'abord ça. Et cette vérité, quand elle est mise sur la table, alors commencer aussi la réflexion sur les réparations. Et les réparations, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait honorable que les sociétés veuillent réparer des dégâts moraux, des dégâts physiques que les gens ont subis.
Professeur Mbodge, le problème des réparations s'inscrit dans le cadre de matrice de sens plus vaste de la mémoire de l'esclavage. Est-ce que on peut rassembler tout ça sous le concept de régime mémoriel?
Ah oui, tout à fait. Je pense que ce qui s'est passé, et quelqu'un l'a rappelé, depuis la Deuxième Guerre, et puis donc le conflit rwandais, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, a créé une sorte de sursaut international que finalement, le principe même de redressement, de réparation, est un principe moral avant tout, plutôt que simplement une sorte de réconciliation sur le papier ou des politesses seraient échangées et ensuite de l'argent ou des investissements seraient échangés. C'est plutôt un côté éthique et qui, il me semble, est extrêmement important dans ce cadre-ci. Et donc, pour une nation comme René l'a dit, qui est la première puissance mondiale et dont les historiens reconnaissent qu'elle a été bâtie sur le travail des esclaves dans la première moitié du 19e siècle, donc est fondamental pour que ce pays puisse, de façon très morale, puisse faire la morale aux autres pays, en quelque sorte, lorsqu'il s'agit de prendre le leadership sur le plan éthique. Donc, il y a aussi ce côté de ce projet qui vise à rehausser le côté moral et éthique d'un pays qui, finalement, sous la perspective internationale, a beaucoup de sang sur les mains, a beaucoup d'argent sale qui a été accumulé derrière des processus d'expropriation et de main-d'œuvre servile, etc. Donc, il y a aussi une sorte de réarmement moral, si on peut parler ainsi, des États-Unis qui est visé, sans le dire d'ailleurs de façon très explicite, mais il est évident que ça fait partie un tout petit peu des motifs pour que cette réparation puisse aller de l'avant.
Et René Lec, vous suivez le débat politique ici à Washington. Les membres républicains de la commission justice, tout en reconnaissant la brutalité de l'esclavage, s'opposent à cette législation. Il y a l'élu Chip Roy qui estime que cette législation nous éloigne de l'important rêve de juger quelqu'un sur le contenu de sa personnalité et non la couleur de sa peau. Est-ce que les générations actuelles doivent-elles réparer les effets de l'esclavage?
Mais écoutez, la question n'est pas une question de mon point de vue individuel, c'est une question culturelle. Le gap qui existe au plan économique, au plan de l'éducation, au plan de la santé, au plan de l'accès aux services publics, à tous les niveaux, au plan institutionnel, au plan politique, à tous les niveaux dans le système américain, il y a un gap énorme entre les Noirs et les Blancs, que ce soit en termes de privilèges pour les Blancs ou que ce soit en termes de désavantages, voire même de drames quand on prend la question du système judiciaire. Donc, comment expliquer un tel gap? D'un point de vue scientifique, si on se base sur des simples analyses statistiques, on se dit c'est pas possible. Les Blancs ne peuvent pas être 7-8 fois plus riches que les Noirs, simplement liés à leur capacité personnelle. Ça n'est simplement pas possible. Il y a nécessairement des raisons structurelles. Eh bien, ce sont ces raisons structurelles-là qui sont liées à l'esclavage. Ce sont ces raisons structurelles-là qui sont liées au prolongement de l'esclavage aujourd'hui, qui est un racisme endémique et systémique particulièrement violent, particulièrement brutal et particulièrement fort et que subissent les Noirs. Donc, la question n'est pas juste une question individuelle, il faut aller bien au-delà de cela. Regardez aujourd'hui, prenez la composition du Sénat. Il y a 100 sénateurs. Combien y a-t-il de Noirs? Il y en a 2 ou 3, d'accord? Je ne crois même pas qu'il y en a 2 seulement en ce moment. Donc, quand vous prenez des situations comme ça, mais vous voyez bien que le système lui-même est le résultat et la prolongation du système esclavagiste. Donc, la question de la réparation, ce n'est pas un regard vers le passé, de mon point de vue. Et moi, je crois que, personnellement, c'est toujours un peu en ces termes que je les pose. Je dis, certes, c'est un regard vers le passé pour voir ce qui se passe aujourd'hui et pour expliquer les différences et les décalages aujourd'hui. Et ça, il faut absolument combler ce retard, redresser, disons, il faut absolument redresser cette situation si les gens veulent vivre ensemble en toute tranquillité.
Je signale qu'en 2019, le revenu moyen annuel d'un foyer noir ici aux États-Unis était de 43 771 dollars contre 71 664 dollars pour un foyer blanc, selon des statistiques officielle. Professeur Bolge, nous avons connu des avancées de la lutte pour les droits civiques dans les années 1960. Est-ce que vous pensez que cette question des réparations devrait être un nouveau front?
Oui, bon, certainement, il y a dans une partie de la presse de droite, effectivement, l'argument qu'en réalité, l'Amérique a déjà payé avec les droits civiques, avec tous les acquis qui, sur le plan des élections, sur l'affirmative action, et que tout cela, donc, était la réparation. Mais fondamentalement, les droits civiques étaient simplement de mettre à niveau les droits des Noirs américains par rapport à leurs concitoyens américains sur le plan législatif d'une manière générale. C'était fondamentalement ce que le mouvement des droits civiques a achevé. Mais l'égalité économique, l'opportunité, l'accès aux mêmes opportunités sociales et économiques, et même l'accès aux opportunités politiques, reste un très gros problème qui, effectivement, les gens disent qu'en réalité, c'est le nouveau mouvement des droits civiques aux États-Unis. Maintenant, il s'agit de créer fondamentalement, disons, les conditions pour que le noir soit enfin et enfin américain de plein droit et sur tous les plans sans nécessairement avoir à quémander quoi que ce soit, mais soit dans une situation où non seulement il sera très représenté au niveau de toutes les institutions, mais en plus, les politiques qui jusque-là, sans le dire ouvertement, mais avaient ciblé de façon négative la situation et la vie des Noirs américains, doivent pouvoir être adressées pour qu'enfin il y ait une égalité de chance, une possibilité pour les Noirs américains, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, de saisir une perche qui leur permette de fondamentalement jouir du même niveau de vie, du même niveau d'accès à la santé, du même niveau de sécurité dans leur existence quotidienne, donc d'être protégés des aléas d'une justice qui systématiquement les considère comme coupables jusqu'à preuve du contraire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de niveaux qui font que, pour certains analystes, c'est le nouveau mouvement des droits civiques aux États-Unis.
Il y a aussi des incarcérations de manière disproportionnée par rapport au reste de la population américaine. Athanase, quand on suit la politique américaine, par exemple dans nos pays, qui encourage toujours la politique d'équité dans nos pays, est-ce que on prêche ce que on ne fait pas chez soi?
Chez soi, on ne le prêche même pas. Mais je crois que ça va au-delà d'une réflexion purement américaine, parce que vous savez que le Canada a engagé aussi un processus d'interrogation qui s'interroge sur la responsabilité de la situation dramatique que vivaient les Inuits qui ont été victimes de discrimination. La Nouvelle-Zélande aussi a commencé une réflexion et une réparation, une forme de réparation avec les Maoris. En Australie aussi, il semble que le mouvement s'amorce. L'apartheid de l'Afrique du Sud, on l'a vu, ça s'est enclenché, même si les inégalités restent extrêmement fortes et extrêmement prégnantes sur le plan économique, mais au moins sur le plan politique, c'est réglé. Donc, il ne faut pas non plus
isoler la France. Il y a aussi la France.
Il y a la France, mais la France avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a une double lecture de l'histoire, parce que la France a subi elle-même l'agression nazie, par exemple. Elle est parmi les pays qui ont été détruits par une puissance voisine, certes, mais une puissance quand même ennemie. Mais en même temps, la France, elle a détruit aussi d'autres pays. Tout à l'heure, j'entendais parler du cas de Haïti. Haïti, effectivement, c'est un pays où les esclavagistes ont reçu une réparation absolument gigantesque, des milliards en euros actuellement, qu'on pourrait estimer, à la demande de la France. Et ce sont les esclavagistes qui ont été rémunérés pour le sale travail qu'ils ont fait à Haïti. Donc, en résumé, je pense qu'il faut voir que c'est un mouvement global, c'est un mouvement international. Et les pays africains auraient intérêt aussi à se poser des questions de même nature. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous parliez de plusieurs missions que j'ai effectuées en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger et en Mauritanie, pour former des journalistes dans l'investigation sur l'esclavage traditionnel, il y a beaucoup de pays africains où subsiste un système d'esclavage qui ne dit pas son nom, et qui est prégnant, qui est quotidien, qui est extrêmement violent. Par exemple, ce qu'on appelle la cinquième épouse au Niger, c'est une façon d'échapper à la loi coranique qui limite le nombre d'épouses à 4. Mais quand on épouse la cinquième épouse, on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 femmes. Mais surtout, c'est possible quand on épouse une femme esclave. Et toute la descendance devient esclave. En Mauritanie, il y a beaucoup de débats sur la question de l'esclavage. Pas seulement d'ailleurs l'esclavage arabe, noir, comme on pourrait le penser. Il y a aussi de l'esclavage traditionnel dans les groupes négro-africains. Je déteste ce mot parce qu'il ne veut rien dire. C'est une insulte qu'on fait aux Wolofs qui sont mauritaniens. Et aux autres communautés. Donc, je crois qu'il faut dépasser la question américaine. C'est vrai, elle est très importante, mais l'inscrire plutôt dans une globalité de droit, d'équité économique, de réparation morale, mais aussi d'avenir. Parce que Lincoln, même le président Lincoln, qui est célébré comme étant un grand ami des Noirs, et le président Lincoln, après la guerre de sécession, voulait vider l'Amérique des Noirs et les envoyer au Libéria. Et puis surtout aussi, n'isolons pas la question des Noirs par rapport aux Amérindiens. C'est une injustice encore plus grave parce qu'elle se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Les Amérindiens, c'est vraiment des peuples dont les droits sont extrêmement bafoués, qui ont des territoires, qu'on confine dans des réserves. Je pense qu'il faut aller plus loin que la reconnaissance de l'esclavage. C'est vrai, c'est une horreur absolue, mais c'est aussi une volonté mondiale de mettre tous les humains à égalité. Une fois de plus, l'Amérique peut être sans doute un pays de lumière, un pays qui nous donne de bonnes raisons de penser qu'il y a des progrès à faire, mais il y a d'autres pays qui ont déjà commencé cette démarche.
Professeur Mbodj, est-ce que vous pensez que c'est un sujet important aussi pour les pays africains où existent des discriminations persistantes?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a, comme on dit, donc il y a beaucoup de choses à balayer devant sa propre porte. Et quelquefois, effectivement, il y a un grand refus parce qu'il s'agit de condamner telle ou telle grande puissance mondiale dans son traitement des Africains, etc., etc. Mais il est évident que, comme Athanase l'a souligné, il y a des situations intérieures intolérables en Afrique, de discrimination et de mise à l'écart et de domination, de subjugation de catégories. Et ici, donc, c'est la persistance de cette catégorisation servile qu'il y a des gens qui sont des esclaves dans la réalité de tous les jours. Ça, les pays africains doivent absolument se battre et balayer dans leur cours devant leur porte avant finalement de pouvoir même porter un jugement sur les Amériques ou sur d'autres pays. Ça, c'est certain.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Mbodj et avec Athanase sur cette question. Mais Eric, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur un petit point. Oui, les chiffres que vous avez donnés étaient intéressants entre les revenus moyens noirs et les revenus moyens blancs. Les blancs étaient un tout petit peu moins de deux fois plus. Mais c'est pas ça le chiffre le plus important de mon point de vue. Le plus important, c'est l'accumulation de richesses. Il y a un décalage dans une famille noire moyenne. L'accumulation de richesses représente 15% de celle d'un blanc. C'est là où véritablement la situation devient structurelle, au-delà même de revenus annuels moyens. C'est l'accumulation, la richesse de base. Donc le décalage est simplement énorme et une société avec de tels niveaux de décalage, il est difficile de pouvoir y vivre en harmonie. Et ça se pose également chez nous en Afrique, où effectivement les décalages en matière de revenus entre l'élite et la masse des populations est tel que simplement je ne vois pas comment on peut vivre harmonieusement ensemble dans de telles conditions.
Avant une décision au niveau fédéral ici aux États-Unis, la question des réparations a déjà été abordée au niveau local. La petite ville d'Evanston, près de Chicago, est devenue en mars la première à décider d'indemniser ses habitants noirs à hauteur de 10 millions de dollars sur les 10 prochaines années. Les habitants correspondants aux critères recevront 25 000 dollars chacun pour financer leur crédit immobilier ou la rénovation de leur logement. Et en 2019, les étudiants de la prestigieuse université de Georgetown à Washington avaient approuvé symboliquement la création d'un fonds au profit des descendants d'esclaves vendus au 19e siècle par les jésuites ayant créé l'établissement. Nous arrivons au terme de cette édition de L'Amérique et vous. Merci au professeur Mohamed Bodj pour votre contribution. Merci professeur.
Merci.
Merci à Athanase Karayenga depuis la France.
Merci pour l'invitation, Eric. Merci beaucoup.
Merci à René Lec, analyste politique.
Je vous en prie, Eric.
Merci à Lionel Mudanira Gaïma qui a facilité la mise en onde. Eric Mandirakis a été avec vous. Je vous souhaite une agréable soirée.